Ouais, c'est peut-être, on va peut-être commencer vous deux.
Oui, oui. Alors, Philippe.
On va vous aider un peu.
Moi, je vous fais la question très. Là, en revoyant le film pour une deuxième fois, j'ai trouvé que la puissance des situations, enfin, l'épure des dialogues renforçait la puissance de des situations. Et ça m'avait pas vraiment marqué au début. Et alors, justement, comment avez-vous écrit? Quelle était l'idée de départ? Qu'est-ce que vous aviez envie de dénoncer? Et comment vous l'avez écrit?
D'accord. Ben écoutez, d'abord merci pour le commentaire sur les dialogues. Et purée, c'est vrai que j'essaie toujours de rendre les choses plutôt par l'image, et par la situation, par l'action, que par le dialogue. Et donc, voilà, c'est une chose à laquelle je tiens, et c'est pas toujours évident, mais bon, voilà, c'est en tout cas, je trouve que ça c'est du cinéma, en tout cas, pour moi. Et maintenant, quant au film, quant au sujet, j'étais tout de suite complètement happé, si je peux dire, par la situation qui se développait en Syrie, parce que je l'ai trouvée, elle m'a choqué, en réalité. J'avais passé pas mal de temps, les deux années précédentes, avant que cette guerre ne démarre en 2010 et début 2011, j'avais passé pas mal de temps à Beyrouth pour travailler pour d'autres réalisateurs. J'ai fait deux films là-bas en tant que chef opérateur. Et donc j'avais été quelque part, j'avais jamais été à Beyrouth avant, et donc je me suis rapproché de ces gens, et je me suis aussi rapproché de leur guerre. Et donc eux m'ont raconté ce que la guerre du Liban avait pu être. Et un des deux films, d'ailleurs, racontait, en l'occurrence, des scènes de guerre. Et donc, moi, ça m'avait marqué, parce qu'en réalité, je me souviens aussi que dans les années 80, j'y étais déjà très sensible et très intéressé par tout ce qui se passait là-bas. On se souvient des enlèvements de Carton, Fontaine, Seurat, Kaufmann, tous ces gens qui ont été très, très mal pris par cette situation. Et donc, au moment où cette guerre, où les événements, si vous voulez, de ce printemps arabe surgissent en Syrie, ils sont tout de suite réprimés par la terreur, par des snipers qui se trouvaient sur le toit des immeubles pour tirer dans la foule qui manifestait, et par des arrestations massives et tout. Et dans le même geste, on a complètement tourné le dos à ça, on est resté totalement extérieur. Et dans le même geste, on était en Libye, en train de venir à bout de Kadhafi avec tous les moyens possibles et imaginables. Donc quand on veut, on peut. Et on l'a pas fait. Et donc je pense que si on était intervenu tout de suite en Syrie, cette situation n'aurait pas pourri comme elle l'est maintenant, avec un constat qui est terrifiant. La destruction du pays, les centaines de milliers de gens qui ont péri, les millions qui ont été déplacés, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de leur pays, qui sont réfugiés chez nous, pour certains d'entre eux. Et enfin, c'est un vrai désastre. Donc tout de suite, je me suis dit que j'avais envie de pouvoir intervenir, donner mon sentiment par rapport à ça. Alors bon, c'est bien, mais enfin, bon, il faut avoir un sujet. Il faut pouvoir raconter quelque chose. Et il se trouve qu'en fait, une des jeunes femmes avec qui je travaillais à Beyrouth, qui est chef opératrice elle-même, elle était l'opératrice caméra pour un des deux films que j'avais fait là-bas. Elle est syrienne, elle s'appelle Jude Gorani, et je l'ai retrouvée par hasard en décembre 2012 à Paris. Et enfin, pas tout à fait par hasard, mais voilà. Donc on s'est retrouvés, et je lui ai demandé comment allait sa famille, et elle m'a dit que son père était emprisonné dans son appartement à Alep. Ça faisait plusieurs semaines qu'il était piégé à l'intérieur, qu'il était piégé chez lui, parce qu'il y avait des combats dans le voisinage, il pouvait plus sortir. Et donc il n'y avait pas trop d'infos. On savait pas trop comment il se débrouillait, mais enfin bon voilà, il était chez lui à l'abri, plus ou moins. Et ça a été la clé qui m'a permis de me lancer dans ce travail et qui m'a permis de construire une histoire. Et donc plutôt que d'avoir un homme seul dans un appartement, ben, pour moi l'évidence m'appelait d'y mettre plutôt une famille, une femme, ses enfants, et puis les voisins qui sont recueillis. Le grand-père qu'on a fait venir là aussi, plutôt que... J'ai toujours imaginé que le grand-père habitait l'appartement du dessus. Et donc, je me suis dit, on peut plus le laisser tout seul dans son appartement, il faut qu'il redescende. Et ainsi de suite. Et j'ai tout de suite considéré que ce film allait se passer dans cet appartement parce que mon principe était de ne pas les quitter, jamais, et de ne pouvoir rendre la guerre que parce que eux pouvaient en appréhender. Donc d'être toujours dans leur point de vue. Et puis j'ai mis ça en route sur l'idée de travailler sur 24 heures, et ainsi de suite, et voilà. C'est un peu la manière dont les choses se sont cristallisées.
Y a-t-il une question ? Attendez le micro, parce que c'est difficile de...
Donc la question était, vous l'avez tourné où ? On a tourné à Beyrouth, en mai-juin 2016. Moi, j'avais donc tourné deux films là-bas auparavant. J'avais des amitiés, j'avais des gens que je connaissais, des compétences redoutables, d'ailleurs, pour certains. Des gens très, très, très bien, quoi. Donc, c'est un vrai régal de travailler là-bas. Et d'ailleurs, le tournage en lui-même, bon, le film est terrifiant, mais le tournage s'est passé comme du velours. On a été très heureux d'être là-bas et on aurait juste préféré avoir un tout petit peu plus de temps. Mais bon, ça, ce sont des contingences de production qui font que, voilà, les choses se sont passées comme ça, mais elles se sont merveilleusement bien passées. Avec tout le monde. Alors. Oui, on me demande si ce sont des acteurs professionnels. C'est pas grave, hein, madame, on va y arriver. Hein. Mais merci en tout cas. Mais oui, donc évidemment, Hiyam Abbas, qui est quand même relativement célèbre, qui était dans plusieurs films dont on peut se souvenir. Moi, celui qui m'avait vraiment marqué à l'époque, c'était Les Citronniers de Erwan Riklis. Mais il y en a d'autres, il y a Le Visiteur, par exemple, un film. Maintenant, tout d'un coup, ça m'échappe. Voilà, qui date de 2008 ou 2007, je ne sais plus, et qui se passe à New York. Vous pouvez aussi la voir dans le Blade Runner 2049 qui vient de sortir, et vous la verrez aussi dimanche dans un autre film qui est un film de la réalisatrice tunisienne Raja Amari, qui est une femme formidable qui fait des films merveilleux. Corps étranger. Et donc Hiyam tient le rôle principal dans ce film-là également. Et donc, ça c'est pour rien. Maintenant que j'ai fait sa promo et tout, tout va bien. Donc, elle est pour le moment aux États-Unis, elle est en tournage pour 6 mois. Et donc ensuite, Diamant Bouabou, qui joue le rôle de Halima, est une jeune actrice libanaise que j'avais rencontrée au cours du deuxième film que j'ai fait là en tant que chef opérateur, et elle m'avait vraiment impressionné. Je trouve qu'elle a un talent incroyable, elle a une énergie et une audace. Enfin, c'est quelqu'un qui retient rien, quoi. Elle y va à fond. Et d'ailleurs, je peux vous dire que son corps était marqué par l'épreuve du film. Elle est très impressionnante et moi, j'ai tout de suite pensé à elle dès que j'ai commencé à réfléchir à ce film. Et quand j'ai commencé à écrire, je pensais à Hiyam d'un côté pour le rôle de Oumi Hassan, et je pensais à Halima pour le rôle de Diamant, et ça a certainement facilité les choses entre nous aussi, parce que tout était là dans l'écriture, il y avait des choses qui étaient très, très intimes finalement, et qui leur parlaient tout de suite. Alors, ce sont des actrices, hein, elles prétendent toutes les deux qu'elles ne sont pas comme ça, et en réalité je pense qu'elles ne le sont pas, mais elles s'y sont reconnues en tout cas, elles ont reconnu qu'il y avait quelque chose d'elles à l'intérieur de ce film. De ce personnage, pardon. Ensuite, on a le personnage de Juliette Navis, qui est la domestique d'Elhani, qui, elle, est une particularité vraiment du film, parce qu'à un moment donné, pour des raisons de production, encore une fois, mon producteur m'appelle, il me dit, il faudrait quand même que pour le rôle de la domestique, qui est donc une fille d'Asie du Sud-Est, ou quelque chose comme ça, moi je la voyais sri-lankaise, il faudrait qu'elle ait un passeport européen. Parce que ça nous arrangerait bien pour valider tes financements. Je dis, ah bon, d'accord. Donc tu veux que je trouve quelqu'un qui soit d'origine asiatique, qui parle l'arabe et qui en même temps ait un passeport européen, très bien, pas de problème. Mais en réalité, ça existe puisque Juliette est là. Et donc Juliette ne parlait pas l'arabe, pas un mot, mais elle avait grandi à Marrakech et donc elle avait les sonorités de la langue. Et donc elle a été coachée par une amie. Libano-palestinienne, qui l'a coachée pendant un mois et demi avant d'arriver, et donc tous les dialogues qu'elle a produits sont des dialogues qu'elle a reproduits phonétiquement, et elle l'a fait de manière absolument insensée, parce que tous les Syriens qui étaient sur place pensaient qu'elle était syrienne. Et donc ensuite, on a le grand-père, qui a le nom Abbas, mais pas avec deux S,
d'accord.
Voilà, avec un seul S, et qui est, lui, un vrai Syrien, qui vit à Tartous, qui est une ville qui se trouve sur la côte méditerranéenne, en Syrie, au nord du Liban, et qui est un comédien plutôt de théâtre, et qui m'avait vraiment, on m'a proposé sa photo parmi d'autres, et j'ai tout de suite dit, mais c'est lui que je veux, et on l'a fait venir, et il était bouleversant, et je l'ai gardé. Et lui, par exemple, pour éviter de le perdre, on l'a pas laissé partir, parce que on avait peur qu'il puisse pas repasser la frontière. Ça a été la première fois qu'il est venu, qu'il a traversé la frontière, ça a été très très compliqué, parce que les Libanais qui ont accueilli, il y a 4 millions d'habitants au Liban en règle générale, ils en ont accueilli plus d'1 300 000 chez eux, dans ce petit pays. Et ça se débrouille comme ça peut. Hein. Je veux dire, alors il y a des gens là-dedans qui se débrouillent tout seuls, qui arrivent avec quand même des moyens, et il y en a beaucoup d'autres qui sont vraiment laissés pour compte, qui n'ont plus rien, qui ont tout perdu, qui sont dans les camps de réfugiés, ça dure pendant des mois. Enfin, c'est très très dur. Et donc, les Libanais n'en peuvent plus non plus, et donc ils font tout ce qu'ils peuvent pour bloquer le passage à tous les prétendants. Donc on l'a gardé pendant toute la durée du film, il n'a pas pu rentrer chez lui, même si on n'avait pas forcément besoin de lui à certains jours, et ainsi de suite. Et puis alors, tous les jeunes sont des jeunes Syriens qui sont tous réfugiés à Beyrouth, et qui sont parfois, pour certains, comme la plus âgée des deux filles, elle est là depuis 6 ans maintenant, je crois, plus de 6 ans. Et certains avaient, comme elle, un tout petit peu d'expérience de jeu, plutôt pour le théâtre, et tous les autres, la petite, le gamin évidemment, mais aussi Karim, que je trouve magnifique, tout cela n'avait jamais été devant une caméra, donc voilà. Et qu'est-ce que j'oublie? Ah, j'oublie, donc tous les autres sont syriens, puisque y compris donc le mari de Halima est un jeune acteur syrien de Damas, qui maintenant est réfugié à Beyrouth. Et le chef des deux agresseurs est un Syrien qui vit à Berlin et que j'avais également filmé dans le film où j'avais trouvé Diamant. Et lui, il est extraordinaire. Heureusement qu'il est là, d'ailleurs. Voilà.
Alors, en parlant du papa ou du grand-père, le film démarre sur... il regarde l'extérieur, il revient, il pleure. Mmh. Il y a un grand travelling sur l'appartement. On découvre qu'il y a beaucoup de livres, donc on suppose que c'est une famille qui a de la culture, un grand-père qui est cultivé puisqu'il fait la classe. Puis la fin du film, c'est ça revient sur le grand-père qui regarde à l'extérieur. Et moi, j'ai l'impression que c'est le témoin d'un monde qui s'effondre.
Oui, oui, c'est pas seulement le témoin. Pour moi, il est parti. Prenant quelque part, il se sent une responsabilité de ce qu'il voit sous ses yeux. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là, se dit-il, me semble-t-il. Et ça doit être terrifiant. Enfin, je pense que, voilà, moi, j'ai mis beaucoup d'émotions dans ce personnage. Je le trouve très, très, très touchant. Mais je pense que, voilà, quand on arrive au soir de sa vie et qu'on fait un peu le bilan de la société dans laquelle on vit, ben, on peut se dire que, ben, pour nous, par exemple, V68, où est-ce que c'est passé, quoi? C'était une belle utopie, et puis il n'en est pas resté grand-chose.
Ça va? Non, oui, mais c'est pour les gens derrière qui n'entendent pas forcément.
Bonsoir.
Bonsoir.
Juste pour revenir sur cette idée-là, le fait que le grand-père regarde au début, quand tu tournais ce travelling et qu'à la fin, encore une fois, on est le grand-père qui s'approche de la fenêtre, qui regarde, met les larmes aux yeux, et à l'entrée, encore une fois, les larmes aux yeux, c'est pas aussi pour montrer le fait que lui seul, lui, il se rassure pas, en fait, il sait que la guerre, elle va pas se finir aussitôt, alors que la mère, on voit qu'elle rassure la fille, etc. Est-ce que c'est pas pour montrer justement un cycle, que justement, cette chose, c'est...
Se reproduit.
Exactement, que ça se reproduit et que ça changera pas d'aussitôt, quoi.
Alors moi je pense effectivement c'est une journée parmi d'autres, il y en a eu d'autres qui ont précédé celle-là, qui étaient comme celle-là, il y en aura d'autres encore derrière, on ne sait pas combien de temps ça va durer, c'est une journée parmi d'autres. Je pense que c'est malheureusement une espèce de mouvement perpétuel qui s'installe parce que voilà, ils sont en pleine guerre, ils savent pas comment ça va s'arrêter. Je pense par contre que tout le monde est absolument très 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 au courant et très lucide sur la situation dans laquelle ils se trouvent. Et que si la mère, par exemple, essaye de gommer ça par une insistance sur une forme de normalité dans la maison, on continue à se laver, on continue à manger, on continue à s'asseoir pour manger, même si on mange tout le temps la même chose, et ainsi de suite. Tout ça, ça fait partie des petites choses qui font qu'on tient, je pense, humainement et moralement. C'est-à-dire que si vous arrêtez les petites routines, si vous ne vous accrochez plus à rien, à ce moment-là, voilà, vous sombrez, je pense. Et en ce qui concerne le grand-père, on l'a déjà évoqué, mais donc pour moi, leur lucidité est grande. Son énergie à elle, elle la tient de sa responsabilité vis-à-vis des siens. Et si vous voulez, moi, ce que je regarde et ce que je trouve intéressant, et ça m'a vraiment sauté aux yeux au moment où le film a été présenté pour la première fois, c'était à Berlin, au Festival de Berlin, en février. Et l'accueil du public a été absolument bouleversant, comme je le retrouve maintenant. Et ce qui était bouleversant pour moi, c'était cette compréhension de la situation des réfugiés syriens, que le film amène quelque part d'une certaine façon. Parce que on voit bien ici que elle dit « je quitterai jamais ma maison ». Et en même temps, je pense qu'effectivement, qui parmi nous, se trouvant dans une situation comparable, se résoudrait à partir, finalement. Je pense que c'est un acte, il faut être très courageux, il faut avoir de l'audace, on ne sait pas où on va, on laisse tout derrière. Et tous ces gens qui ont fui et qui ont eu le courage de fuir pour sauver leur famille, pour se sauver eux-mêmes, ils se retrouvent finalement à nos portes, nus comme des vers en réalité. Hein. Et donc, moi je trouve qu'on ne les a pas forcément toujours tellement bien accueillis. Enfin, il y a eu des accueils très, très médiocres. Enfin, la Hongrie ou la Croatie, pour ne parler que de cela. Mais donc ça me paraît important, si vous voulez, par rapport à nous, pour le film. Maintenant, une des choses dont on parlait tout à l'heure, excusez-moi, je suis lancé. Hein, tout d'un coup, ça m'échappe maintenant. Ça m'échappe.
Oui, ce que vous dites là, oui, je vais vous donner, j'arrive. Le dialogue entre Halima et son mari est très clair
oui.
À ce niveau-là.
Oui, absolument.
Donc, l'émotion. Partir, oui. C'est dur.
Ah oui, c'est dur. Donc, il y a deux personnes, il y a monsieur et il y a madame.
Oui, bonsoir. Ça n'a pas été dit, mais tout le monde le pense, je crois. Merci infiniment pour ce film énorme, monsieur.
Merci.
On est dans un film, vous avez dit, c'est du cinéma. Oui, c'est ouais. Du grand cinéma. Et c'est une fiction, mais en même temps, c'est plus fort et plus authentique que n'importe quel reportage ou documentaire qu'on a pu voir. Simplement, je remarque, je pensais à ce bébé, dans 20 ans, il sera porteur de quoi, ses enfants, ils seront porteurs de quoi, ils nous regarderont comment à nous, qui sommes restés muets, même s'il y a beaucoup de gens qui se sont remués,
oui.
Quand même pour des solidarités. Et je pensais à aujourd'hui, dans la presse, il n'y a rien à la une qui parle de la Syrie. On parle de Mladic, c'est Srebrenica le boucher. Hein. Il y a des choses analogues en résonance.
Absolument. Hein.
Il y a les snipers de Sarajevo. Hein. Et on a tout dans ce film. On a une compréhension tellement profonde, tellement humaine, vous nous avez amené à un peu secouer nos consciences. Je doute quand même que le cinéma, même si je trouve que c'est énorme ce que vous avez fait, arrive à les remuer suffisamment pour qu'on puisse changer un peu le monde, en tout cas arrêter les guerres. Et puis, je voulais dire aussi autre chose, j'ai remarqué qu'au début du film, il y a un titre anglais, Et il me semble qu'il va très bien. Et une famille syrienne, avec tout le respect que j'ai pour les Syriens, aussi n'importe quelle famille sûrement, je trouve que c'est faible. Insyriated, ça dit quelque chose de très fort, où on est à la fois enfermé dans la Syrie, et on vit la Syrie, on la sort du territoire pour nous la mettre devant les yeux, devant... Je craignais un peu au départ que ce soit trop émotionnel. Hein. C'est très fort, c'est très humain et c'est très juste. Voilà, alors, merci majuscule.
Ben, merci beaucoup, monsieur. Vous me faites plaisir pour le titre parce que c'est mon titre, titre anglais. Mais on a craint pour le public français, qui n'est pas très polyglotte, hein, on va le dire, que ce soit un petit peu abscon, et donc on a trouvé la famille syrienne, ce qui a été une prise de tête, ça a duré un moment. Mais finalement c'est une bonne idée, malgré tout, parce que ça identifie quand même très bien le film. Et que moi ce qui est marrant, c'est que je passe mon temps quand même à Paris, et je suis dans le métro tous les jours, et on les voit. Les petits panneaux, une famille syrienne, qu'ils le soient ou qu'ils le soient pas, sont des gens qui sont en difficulté. Et donc tout ça, ça existe, et donc c'est, voilà, c'est bien comme ça. Il y avait une chose, excusez-moi madame, j'arrive à vous dans un instant, il y avait une chose dont vous avez fait mention auparavant, sur la question de la fiction par rapport au documentaire. Jamais, de mon point de vue, je n'aurais voulu faire un documentaire sur le sujet, même si je pense qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont d'une éloquence rare et qui sont totalement bouleversants, parce qu'ils ont aussi cette qualité humaine. Mais ici, mon projet était de pouvoir nous identifier à nous, et j'ai retrouvé ce que je voulais dire, de pouvoir nous identifier, nous, au plus près de ces personnages. Et ça, je pense qu'il n'y a vraiment que la fiction qui y arrive. Et donc, c'est pour ça que je fais de la fiction. C'est parce que je veux ce principe d'identification. Je veux que notre émotion soit maximum, si vous voulez, qu'on ne soit pas simplement en train de regarder d'autres gens. Qu'on se sente comme eux, qu'on se sente parmi eux. Et c'est ce que j'essaie de faire. Et d'ailleurs, donc pour ramener sur ce que vous demandiez, ce que je voulais dire tout à l'heure, j'ai essayé de ne pas jouer sur les particularismes, si vous voulez. Donc par exemple, vous me parlez de Sarajevo, j'ai vu quelqu'un de Sarajevo il y a un mois dans une autre projection en Belgique, qui est venu vers moi, qui m'a dit, moi j'étais à Sarajevo en 95, je sais de quoi vous parlez. Tout ça, c'est mon vécu. Et donc ça, je l'ai à chaque fois, si vous voulez, j'ai des gens qui sont dans la salle, des Syriens en particulier, mais j'ai des gens qui viennent vers moi et qui ont vécu d'autres conflits et qui peuvent me dire que ça ressemble comme un frère, comme une sœur, à la situation qu'ils ont connue. Et donc, moi j'ai évité tous les particularismes, je voulais pas d'une musique orientaliste, je voulais pas que eux soient par exemple religieux, je voulais pas qu'ils soient des gens pauvres, je voulais qu'ils soient plutôt des gens normaux, pas ni des grands bourgeois, ni des gens pauvres, mais des gens avec lesquels on puisse se sentir en relation, et tout ça me semblait important. Donc j'ai situé une famille que je dis libérale, de principe, et qui a peut-être des repères religieux, comme nous en avons tous, mais qui n'en fait pas une règle de vie absolue, et ainsi de suite. Voilà. Et je n'ai pas situé la politique non plus, parce que je ne voulais pas m'aliéner une partie du public, ou une partie... il est bien évident, mon cœur est plutôt du côté des sépourcomptes, et pas du régime, ça c'est bien entendu. Mais voilà, le film ira peut-être en Syrie, qui sait. En tout cas, il en est éventuellement question. Mais il ira peut-être aussi en janvier ou février aux Nations Unies. Et donc, vous parliez de la possibilité de pouvoir qu'il y ait des développements. Moi, je ne pense pas, hein, si vous voulez, je pense pas que le cinéma ait ce pouvoir-là. Ce serait tellement merveilleux. À ce moment-là, on fait tout du cinéma. Mais je pense qu'en tout cas, il peut y avoir des éclats de conscience. Je vous écoute, madame, excusez-moi d'avoir été si long.
Pour revenir à la littérature, hélas, le viol était-il indispensable?
Absolument.
Oui.
Vous ne pensez pas?
Est-ce que c'est parce que c'est une arme de guerre?
Absolument. Absolument. Faire l'impasse sur ce viol, ça aurait été grossier, me semble-t-il. Et en même temps, je vous assure que ça a été un moment hyper désagréable à travailler, aussi bien pendant, au moment du tournage, pour tous, autant que nous étions concernés, parce qu'évidemment, on n'a pas mis tout le monde dans le bain, mais tous ceux d'entre nous qui étions présents pour travailler cette scène, c'était pas facile. Et après, au montage, c'était laborieux. On arrivait à cette scène, parfois en fin de journée, on dirait non, demain matin. C'était trop dur, c'est difficile. Mais en même temps, vous voyez, il y a un film qui sort sur les écrans pour le moment qui s'appelle La Belle et la Meute, qui est un film tunisien, que je trouve très très beau, très intéressant, et où il y a effectivement tout tourne autour d'une jeune femme qui a été violée, et on ne montre pas ce viol. Et Dieu merci, on ne le montre pas, on n'a pas besoin de le voir. Parce que là, il s'agit d'un acte crapuleux. Mais moi, mon devoir était d'adresser cette question de manière un peu frontale, tout en essayant de rester non-voyeur, ni complaisant. Et voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, j'espère que je ne me suis pas trahi en route. Enfin, je n'ai pas le sentiment. Bon, ce qui me concerne. Il y avait... Oui, voilà. Merci, madame. Merci pour cette question, d'ailleurs.
Bonjour. Déjà, merci pour ce film, et justement, c'était pour réagir au dernier commentaire qui a été fait. Moi, je pense que justement, c'est important d'en parler, en fait. Montrer que la guerre, ce n'est pas, entre guillemets, hein, avec plein de guillemets, ce n'est pas que les armes, c'est aussi vraiment, ça peut être, ça porte sur l'intime, en fait. C'est pas juste... des coups de feu, voilà, et des personnes qui, en restant chez elles, vont être tranquilles, non, ça va beaucoup plus loin, et c'est important de montrer cette part-là. Et c'était justement, j'ai trouvé, enfin, c'était très juste la façon dont c'était traité, ne pas en faire trop, justement, ne pas le montrer concrètement, le viol, le montrer, enfin, voilà, juste ce qu'il faut, enfin, voilà, c'était juste pour répondre à ça, et oui, c'est important.
Merci beaucoup, je vous avoue que cette question du viol comme arme de guerre, elle remonte à loin dans ma préoccupation personnelle, et évidemment, j'essaie de la véhiculer au travers de mon travail. Mais c'était pas facile. J'avais cette idée depuis assez longtemps, depuis pas mal plusieurs années. J'avais lu un livre qui s'appelle Le journal d'une jeune femme à Berlin en 1945, qui est un anonyme. Et c'est une jeune femme de 25-26 ans qui a tenu ce journal pendant 40 jours au moment où les Russes sont entrés dans la ville en 45. Et elle raconte par le menu les viols, celles dont qu'elle a elle-même subi, et ainsi de suite. Et j'avais trouvé le livre d'une éloquence rare, en plus il était formidablement bien écrit, et très juste. Et donc j'avais cette idée de pouvoir travailler sur cette question du viol comme arme de guerre, mais il me fallait un contexte et je ne l'avais pas. Il faut dire que, mais à partir du moment où je me suis lancé dans le sujet de la Syrie, je savais que ce serait ça le noyau du film. Et donc par rapport à ce que vous disiez sur la violence et le traumatisme, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de voir des armes à feu pour se dire qu'on subit la guerre, et que c'est cette façon insidieuse de la subir, ça au quotidien, qui rend les gens totalement à fleur de peau, vulnérable. Je pense que c'est très très difficile à soutenir. J'ai perdu un peu le fil de ce que je voulais vous dire.
C'est encore moi.
Allez-y.
Bonjour. Oui. Moi, je veux juste. Là, c'est juste pour vous féliciter. Mais vraiment, un grand merci et un grand bravo. Je me suis toujours souvenu d'une phrase de Gilles Lellouche qui a été dite au César 2016.
Ouais.
Durant son discours, il avait dit que le monde du cinéma atteindrait son apogée le jour où un film, le jour où un film sera touchant et arrivera à faire comprendre aux gens qu'il faut réellement changer et réellement agir. Moi, je pense que le film, en tout cas, je l'ai trouvé, et c'est le vôtre réellement. Je tiens à vous dire bravo parce que je savais qu'il y avait ces horreurs en Syrie. J'en avais conscience, mais là, j'en ai réellement pris encore plus conscience. J'avais l'impression, en fait, d'être parmi les personnages. J'ai vécu tout ce qui s'est passé, et vraiment bravo et un grand merci. C'était pas simplement derrière un écran, on était vraiment dedans, et on a vraiment vécu la situation. Alors juste pour ça, je vous dis merci, Et félicitations, c'était vraiment un film majestueux, tout simplement.
Très touché, merci beaucoup.
De rien.
Bonsoir. D'abord, pardonnez-moi mon français.
Allez.
Le film est magnifique. Vous avez illustré la terreur des gens qui vivent cette terreur jour par jour. Nous, on entend simplement dans les médias et dans les journaux. On a vécu, quand j'ai vu votre film, chaque seconde, c'est comme j'étais avec eux. Je vous remercie aussi de ne pas parler de la religion de l'islam, tellement elle est seule et cette religion, par ces gens-là, que je vous remercie énormément que vous avez... On entendait l'appel à la prière, on nous voit le monsieur qui tient dans la main et qui... Mais vous n'avez pas parlé de ça, je vous remercie. Le film est magnifique, sublime. Le viol, je veux saluer, de montrer, parce que la guerre, on a montré que les gens peuvent devenir des diables, des monstrueux. Et j'ai compris pourquoi la femme a été prête à subir ça, parce que je viens d'apprendre qu'on vend les enfants. Ça, on n'a jamais entendu parler de ça. Votre film, quand je suis sortie de là, je l'ai vu ce matin et je tenais de venir ce soir. Quand on est sorti avec des larmes, on tremblait, on était en colère contre même le monde arabe qui ne fait rien pour sauver les gens. On comprenait pourquoi des Syriens venaient en Europe, parce que les Arabes, ils n'ont pas tendu la main pour sauver ces gens-là. Ça explique que ces gens-là, ils ne savent pas où aller. Merci. Le film est sublime et j'aimerais bien que ce film fait le tour du monde, qu'il traduit à toutes les langues et que tout le monde le voit, pour qu'ils comprennent pourquoi ces gens-là quittent leur pays. Ce sont des gens éduqués, cultivés et qui laissent tout et venir dans un pays et subir les regards des gens et ils ne comprennent pas les gens. Votre film a ouvert les yeux et on comprend pourquoi les gens subissent ça là-bas et ici. Merci beaucoup. Le film est magnifique.
Merci madame.